Chères auditrices et chers auditeurs, mesdames et messieurs, bienvenue à la 9e et dernière séance de notre cours consacré à la présence de collections africaines dans les musées d'Europe, cours enregistré à distance, puisque la crise du virus corona m'empêche d'être parmi vous, avec vous, à Paris aujourd'hui. Le cours d'aujourd'hui s'intitule « Reconnexion patrimoniale ». Il vient à la suite d'une série de cours que je résume vraiment très rapidement, où depuis le XVIe siècle, nous avons tenté de comprendre comment, par quel biais, avec quelles intentions, pour quelle somme d'argent, à la faveur de quelles contraintes, de quelles violences ou de quels échanges, des pièces étaient arrivées dans les musées européens. Les premiers objets étaient des objets destinés aux princes, au public princier, aux cabinets de curiosité. Nous avons vu que les explorateurs, qui étaient à la fois explorateurs, savants, par des biais d'échange, par le biais de dons, par le biais d'achats, envoyé un certain nombre de pièces ou rapporté un certain nombre de pièces dans les collections du XIXe siècle, que parfois ils ont échoué à acquérir les pièces qu'ils souhaitaient avoir, que les musées eux-mêmes, tels qu'ils sont dans nos capitales européennes aujourd'hui, que ce soit Berlin, Lyon, Londres, Paris ou même la Suisse, sont le miroir du passé colonial de l'Europe, que dans ce passé colonial et dans la constitution des collections africaines, les militaires avaient joué un rôle important, d'une part, d'autre part, les missionnaires chrétiens, catholiques et protestants, en particulier, qui ont contribué en particulier à la formation des musées en Suisse, la Suisse ne possédant pas de colonies elle-même. Puis nous avons vu combien les scientifiques aussi avaient contribué à l'acquisition massive ou à l'exportation massive de biens matériels venus d'Afrique, en particulier pour ce qui concerne la France dans les années 20 jusqu'au milieu des années 30, transformant des objets initialement pris dans la vie quotidienne ou la vie spirituelle des populations locales en objets scientifiques. Puis nous avons vu finalement comment par le biais de grandes maisons de vente ou par le biais de stratégies de marchandisation, des objets étaient arrivés dans les grands musées du monde en échange d'argent ou parce qu'ils avaient été créés pour l'exportation. Nous voici arrivés au dernier cours intitulé « Reconnexion patrimoniale » où il va s'agir de voir comment plus récemment, au XXe siècle, les représentants de certains pays africains ont tenté, notamment après les indépendances, de récupérer une partie de ce patrimoine qui a quitté en masse les pays colonisés par la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique et autres, et l'Italie par exemple. Le cours d'aujourd'hui s'articule en trois volets intitulés « Jeune Afrique », un débat européen et résistance au pluriel. Et le document du jour est une photographie de presse de la fin des années 80 qui représente Ekpo Eyo, un grand archéologue nigérian dont il a été déjà question à quelques reprises lors des cours précédents, Ekpo Eyo étant l'acteur principal de la mise en valeur du patrimoine au Nigeria, dans le Nigeria devenu indépendant à partir des années 60, et lui-même a été particulièrement actif au Nigeria dans la décennie 70 jusqu'au début des années, au milieu des années 80. Nous le voyons ici posant devant deux pièces d'un musée, du musée des Beaux-Arts de Houston aux États-Unis. On le voit ici posé en août 1989 et l'objectif de cette photographie de presse est de faire de la publicité pour une conférence qu'il s'apprête à donner dans ce musée sur précisément les ivoires en provenance, donc les ivoires du XVIe siècle en provenance de ce qui est devenu le Nigeria et qui sont désormais dans les collections européenne. Cette photo est intéressante parce qu'elle montre l'un des acteurs non seulement de la connaissance, l'un des meilleurs scientifiques de son époque pour la connaissance de l'art nigérian, mais aussi l'un de ceux qui, et on va revenir dessus tout à l'heure, l'un de ceux qui s'est le plus impliqué pour la restitution du patrimoine nigérian ou de certaines pièces du patrimoine qui a quitté ce qui était devenu le Nigeria. Acteur donc très actif dans les années 70 et 80, on y reviendra. Premier volet, Jeune Afrique. Jeune Afrique, on a vu souvent cette carte-ci qui nous montre le partage de l'Afrique à la faveur de la conférence de Berlin à la fin du 19e siècle. Et comme vous le savez, moins d'un siècle plus tard, en 1960, la plupart des pays d'Afrique au sud du Sahara, et pas seulement, ont acquis leur indépendance progressive des tutelles coloniales. Ça avait été le cas pour les colonies allemandes avant la Première Guerre mondiale. Vous savez que les colonies allemandes avaient été reprises par les Français et les Britanniques. Et l'année 1960, avec un peu de marge avant et après, est celle qui marque les indépendances. Je vous montre ici une carte à chaud publiée en 1960 dans la presse française qui montre l'Afrique de 1960, donc une Afrique que ce graphique montre morcelée, divisée pratiquement, et sans lien entre les différents États. Et il s'agit d'une carte publiée dans l'Express en 1960 et qui accompagne un article intitulé « L'Afrique en miettes », un article qui déplore en quelque sorte ses indépendances, qui déplore l'État dans lequel l'Afrique, par ses mouvements de libération anticoloniaux, s'est mise. Ça, c'est le point de vue français, cette Afrique en miettes, cette Afrique détruite en quelque sorte. Le point de vue des élites africaines qui s'engagent dans la période post-coloniale est un autre point de vue, bien sûr, et je vais tenter d'aller et venir aujourd'hui entre ces deux points de vue. En 1969, est organisé notamment à Alger un festival panafricain. Ce n'est pas le premier, mais c'est l'un de ceux où est évoquée le plus clairement la question du patrimoine qui a quitté le continent africain pendant la période coloniale. Ce qui est intéressant ici, dans cette logique panafricaine, c'est que les États africains s'engagent dans une revendication solidaire, indépendante des États-nations hérités de la période coloniale, s'engagent ensemble ou veulent s'engager ensemble pour leur patrimoine. Dans le manifeste culturel panafricain publié en 1969 dans la revue Souffle, il est écrit notamment « La conservation de la culture a sauvé les peuples africains des tentatives de faire d'eux des peuples sans âme et sans histoire. » Et si la culture relie les hommes entre eux, elle impulse aussi le progrès. Voilà pourquoi l'Afrique accorde tant de soins et de prix au recouvrement de son patrimoine culturel, à la défense de sa personnalité et à l'éclosion de nouvelles branches de sa culture. Dès la fin des années 60, la question des restitutions, appelée ici le recouvrement du patrimoine culturel, émerge dans les discours panafricains, émerge dans différents contextes, ici dans le contexte algérien, dans le contexte du festival panafricain d'Alger, mais aussi dans le cadre de différentes politiques de différents États, du Nigeria par exemple, mais aussi de l'ex-Zaïre, dans des politiques donc de retour aux racines qui permettent de donner une nouvelle identité à ces États laissés, libérés de l'administration et des règles coloniales. Ce qui est très intéressant, c'est de voir donc combien sont précoces ces premières demandes de restitution. Et souvenez-vous, ce ne sont pas en fait les premières, puisqu'on trouve dans les archives déjà des réclamations qui datent pour certaines des années 30. Souvenez-vous de ce vieux chrétien de 78 ans qui réclamait le retour de pièces utiles pour l'institution du roi dans sa région. Au plus tard, donc, à la fin des années 60, existe une conscience de la nécessité de récupérer une partie de ce patrimoine qui a quitté si massivement le continent africain pendant les 70 années qui ont précédé les indépendances. Les deux acteurs principaux à l'échelle des organisations internationales, à l'échelle des États qui vont s'engager dans cette réclamation du patrimoine africain, sont d'une part Amadou Maktar Mbo, que vous voyez ici sur la gauche de l'écran, Amadou Maktar Mbo qui fut pendant de nombreuses années directeur général de l'UNESCO, d'origine sénégalaise, pédagogue de son métier, professeur, à l'origine, qui va engager l'UNESCO dans une importante, dans un important travail de lobby, un effort en fait pour expliquer dans quelle mesure ces patrimoines culturels sont importants pour les peuples africains et pourquoi il est nécessaire que les États européens qui se les sont appropriés au cours des décennies précédentes en restituent au moins une partie, on y reviendra. Donc pour l'Afrique francophone, si on veut simplifier à l'extrême le paysage, on peut dire que c'est Amadou Maktar Mbo qui joue le rôle de porte-parole le plus important avec l'UNESCO pour les réclamations. Et de l'autre côté, pour ce qui concerne l'Afrique anglophone, c'est sans doute Ekpo Eyo que nous avons vu tout à l'heure dans notre document du jour et que vous revoyez ici lors du vernissage d'une exposition à Berlin en 1985, une exposition consacrée au Nigeria, j'y reviendrai aussi. C'est Ekpo Eyo qui, dès le début des années 70, après la guerre du Biafra, va s'engager avec beaucoup d'énergie, j'allais dire s'engager corps et âme, dans les tentatives de récupération d'une partie du patrimoine pris notamment par les Britanniques à Benin City, qu'il voudrait voir revenir dans la région où ils ont été pillés, c'est-à-dire autour de Benin City. Si on consulte les archives des ministères des Affaires étrangères des différents États européens, en Grande-Bretagne, en France, mais aussi, et c'est le cas qui a été le mien, en Allemagne, on constate donc que ces démarches, ces demandes de restitution, comme vous le voyez ici sur ce dossier du ministère des Affaires étrangères l'Allemagne de l'Ouest, cette question des Forderung der Rückgabe von Kulturgut, la réclamation ou bien la réclamation d'objets culturels, est une affaire qui court et qui remplit un grand nombre de dossiers. Ici, vous en voyez un tout à fait garni qui couvre la seule période de janvier à novembre 1979. Ces dossiers comportent à la fois des informations, des formulaires, des lettres provenant des grandes organisations internationales comme les Nations Unies ou l'UNESCO. Ils comportent des lettres souvent estampillées secrets, comme celle-ci qui vient de Ekpo Eyo et qui a été adressée au musée ethnologique de Stuttgart en 1977. Donc des lettres qui témoignent de demandes bilatérales, d'efforts bilatéraux de réclamation. Et puis on voit dans ces dossiers les réactions des différents ministères, comme ici cette lettre encadrée en rouge du ministère de l'Intérieur allemand, qui était à l'époque dans la République fédérale d'Allemagne, en RFA, responsable des affaires culturelles. Si on consulte cet ensemble de dossiers très importants, de manière comparative, tant en Allemagne qu'en France, en Belgique, au Royaume-Uni, on constate que les vagues de courriers, en tout cas l'épaisseur des dossiers, varie pendant les années 70 avec quelques pics. Un pic en 1973 lié à une initiative de l'Assemblée générale des Nations Unies et un discours de Mobutu, à l'époque président du Zaïre, qui le premier réclame avec beaucoup de clarté le retour des œuvres à leur pays d'origine. Puis un autre pic en 1976 avec une stratégie de défense et de réaction, notamment des musées européens qui échangent beaucoup de courriers, de lettres, de guides sur la manière qu'il convient d'adopter, sur le mode ou les réponses qu'il convient d'adopter à ces demandes venues des pays du tiers-monde, comme on les appelle à l'époque. Et puis, en 1979, on peut dire qu'on est à un moment de pic, à un moment où non seulement les administrations, les ministères, les musées se préoccupent de cette question, mais aussi l'opinion publique, avec une multiplication d'articles de journaux, de revues et même, et je l'ai déjà évoqué une fois, même d'émissions de télévision qu'on peut retrouver archivées tant dans les archives audiovisuelles françaises que d'autres pays. Je vous montre un court extrait d'un journal de 20 heures de Roger Giquel que j'ai évoqué déjà plusieurs fois. Alors je ne vous remontre pas l'extrait que j'ai montré déjà à plusieurs reprises, mais un moment où Roger Giquel introduit un reportage sur la question des restitutions et notamment un court échange avec un artiste africain à qui on demande ce que représente pour lui, ce qu'a pu représenter pour lui le départ du patrimoine matériel africain des villages dans lesquels il était conservé, départ mené par des marchands. En tout cas, on ne sait pas par qui, mais en tout cas, il est interrogé sur les effets produits par ce départ. Et ce qui m'intéresse dans cet extrait, c'est de montrer comment, dans les années, à la fin des années 70, on est ici le 19 juin 1978, ce sujet-là était présent dans l'espace public, dans la discussion publique, puisque TF1 était l'une des rares chaînes françaises nationales et visible par tous. Écoutez bien cette intervention, donc.
Quelle est la réaction de l'Africain face à la dispersion de son patrimoine culturel?
Je trouve ça dramatique, dans le sens que moi-même, j'étais parmi ces masques, où j'ai dansé avec, et j'ai vu ces masques partir un à un. Et si c'est quand même une bibliothèque qui brûlait,
qu'est-ce que là pour un Africain?
C'est la question.
Ici, il est fait allusion sans doute au départ un à un de masques dans les années 60, puisque la personne qui en témoigne est un jeune intellectuel africain qui est interviewé dans les années 70, donc qu'il évoque le départ qu'il a vécu lui-même. Il s'agit donc de départs post-coloniaux liés au trafic, probablement, mais l'effet est le même. Il dit que le départ de ces masques, de ces patrimoines matériels, spirituels, est comme une bibliothèque qui brûle. Et lorsqu'il est interrogé sur la fonction de l'art pour un Africain, drôle de questions très générales, il répond que l'art est la lecture du peuple et fait allusion par là à toutes ces cultures qui prennent pour support des œuvres d'art pour se raconter ou raconter. Souvenez-vous que dans le cas du royaume du Bénin, les bas-reliefs apposés sur le palais royal rappelaient l'histoire des dynasties depuis le XVIe siècle au plus tard. Donc ici, dès la fin des années 70, on voit bien que le public européen, le public français en l'occurrence, sait qu'il y a une tristesse, un traumatisme, une perte de mémoire, une perte d'histoire liée à ces déplacements de culture matérielle. Et dans ce cadre, le cadre plus général de cette émission, il est bien question des restitutions qu'il faut, selon l'animateur Roger Giquel, absolument effectuer. Alors, ce débat qu'on pourrait croire simplement français, puisque l'histoire de la colonisation française est encore très, très... La présence de l'histoire coloniale dans les années 70 est encore très proche en France, ce débat est très proche historiquement, dans le temps, est encore très douloureuse ou représente un tabou dans les années 70 et d'ailleurs pendant bien longtemps, plusieurs décennies après les années 70. Ce débat dont on pourrait penser qu'il s'agit simplement d'un débat français est en fait un débat européen et en particulier, de manière très intéressante, un débat également allemand. Et on voit ici dans cet extrait d'un article de l'été 1976, d'un article britannique, qu'il est question ici d'un débat allemand. Débat allemand, le titre de cet article, l'art doit-il retourner dans les anciennes colonies? Et dans les années 76, les colonies allemandes n'existent plus, bien sûr, depuis très longtemps, puisque l'Allemagne a perdu ses colonies avec la Première Guerre mondiale. Donc c'est intéressant. Et ça a été pour moi extrêmement intéressant de découvrir récemment dans des archives que ce débat qu'on pouvait penser d'abord français ou un débat qui concernait d'abord les anciennes puissances colonisatrices qui avaient perdu leur colonie en 1960, ce débat, en fait, était un débat tout à fait large. Et je vous montre volontiers l'extrait d'une très longue émission télévisuelle de 3 heures qui diffusait au début des années 80 sur Zweites Deutsches Fernsehen, ZDF, c'est-à-dire l'antenne 2, France 2, la deuxième télévision publique allemande, qui, dans ces années, a consacré donc une émission fleuve à la question des restitutions, à la question de la présence des patrimoines culturels extra-européens. On parle alors encore du tiers-monde dans les musées européens. Et vous voyez à cet arrêt sur image que les organisateurs de cette émission avaient invité 14 intervenants, donc deux podiums, deux plateaux de 14 intervenants, directeurs de musées, ethnologues, anthropologues, juristes et même un psychologue pour débattre de ces questions, le tout dans un décor post-colonial qui est celui du musée Übersee à Brême, du musée d'ethnographie tel qu'il se présentait dans les années au début des années 80, avec des huttes en paille et des bananiers factices à côté de longues pirogues. Je vous montre simplement la scène et les deux podiums qui, donc, comme je le disais, réunissent des juristes, des membres de l'UNESCO, des historiens, un psychologue, donc, et en particulier, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, un ethnologue qui d'ailleurs vit encore, Monsieur Tirmiziou Diallo, qui a fait toute sa carrière universitaire par la suite au titre de professeur en Allemagne, qui explique ici au public allemand donc ce qu'il faut faire selon lui des cultures matérielles, des objets entre guillemets ou des pièces qui ont quitté l'Afrique pendant la période coloniale et qui, pour rejoindre les musées européens. Est-ce qu'il explique ce qui, à son sens, doit être fait avec ces objets-là. Je laisse passer la bande originale en allemand et j'ai créé des petits sous-titres en français. À l'époque coloniale, cette exploitation n'était pas seulement matérielle, elle fut aussi culturelle. À travers les indépendances, nous en sommes venus à redécouvrir notre culture, à laquelle jusqu'alors on nous empêchait d'accéder, tant sur le plan théorique que sur un plan concret, en nous prenant cette culture. Je pense qu'il faut trouver un moyen pour obliger les pays à nous restituer les objets importants pour notre développement futur, le développement culturel. Énonce donc ce collègue ethnologue allemand au début des années 80 dans une émission de très grande audience en Allemagne. On le voit bien, des deux côtés, en France comme en Allemagne, dans le cas présent, et on trouverait sans doute, en les cherchant, des sources similaires au Royaume-Uni, des documents similaires au Royaume-Uni, on voit bien combien le sujet est présent dans la sphère publique. Du côté français et sur le plan politique, les années 70 sont marquées par toute une réflexion des musées français sur ce qu'il convient de faire de ces collections. Je vous montre ici un rapport confié à Pierre Cognam, qui était un ancien directeur du Louvre, ancien directeur du musée Bardot à Tunis, et qui, à l'époque où cette mission lui a été confiée, était inspecteur général des musées de France, qui, entre 1980 et 1981-82, s'est occupé avec un groupe d'experts de réfléchir à la question des restitutions. Et il remet son rapport, dont je lis quelques passages rapidement. Il estime dans ce rapport que les membres du groupe de réflexion ont tenu à préciser les raisons pour lesquelles ils sont favorables à la promotion du retour de biens culturels. Donc, ce groupe de travail qui a comporté des directeurs de musées, des universitaires et des personnes de terrain est favorable à la restitution, au retour des biens culturels, nous dit ce papier, parce qu'il pense que, bien compris et bien conduit, le retour de biens culturels est un acte de solidarité autant que d'équité. On voit bien ici que l'appel des nations africaines à partir de la fin des années 60, leur demande appuyée par l'UNESCO et par des personnalités comme Egbo Eyo est entendue et que les musées européens sont prêts à faire ce geste que l'on demande de leur part. Dans un article de presse, le même M. Cognam écrit et cet article le cite en ces termes, la France ne se dissimule pas des difficultés de l'entreprise de restitution. Monsieur Cognam, inspecteur général des musées de France, qui a représenté son pays aux travaux de ce comité, a déclaré, citation, « un effort d'intelligence est à faire. Le retour des biens culturels, des œuvres d'art et des documents d'histoire permettra à ces peuples de ressaisir leurs responsabilités. Il faut aider ces peuples à retrouver leur passé et leur confiance. » À part le côté condescendant de l'aide qu'il faut apporter, ce texte signale, rappelle que le passé, la mémoire, l'histoire sont des éléments où la connaissance du passé, de l'histoire, de la mémoire, le contact avec ce passé sont des éléments essentiels pour la confiance en soi, pour le empowerment, comme on dirait en anglais, pour réaliser, pour se réaliser comme société. Et ici, c'est extrêmement bien dit. Et on voit qu'en France, au début des années 80, le terrain semble préparé pour mener à bien de telles restitutions réclamées par les pays dits du tiers-monde à l'époque, et en particulier par les pays africains. En Allemagne, la situation est semblable, et là encore, il faudrait étendre l'étude à tous les pays européens, mais en tout cas, pour ce qui concerne l'Allemagne, divisée à l'époque entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande, du côté de la RFA, c'est l'une des grandes dames du libéralisme allemand, ou la grande dame, la femme politique peut-être la plus éminente de la fin des années 70, Hildegard Hamm-Brücher, qui dans le gouvernement d'Helmut Schmidt annonce qu'elle va faire procéder probablement en 1984 à des restitutions. Pourquoi en 1984 ? Pour marquer les cérémonies de commémoration de la conférence de Berlin qui avait eu lieu 100 ans plus tôt. Elle déclare dans la presse en 1982, donc deux ans avant ces commémorations de 1984, elle déclare qu'il est tout à fait imaginable qu'à l'occasion du centenaire de la signature des traités de protectorat avec les anciennes colonies allemandes, le Togo et le Cameroun, nous procédions à des restitutions à l'Afrique, déclare Madame Hamm-Brücher, comme l'indique la Süddeutsche Zeitung, ici le 10 août 1982. On le voit bien ici, tant du côté français que du côté allemand, les politiques, et en particulier les ministères des Affaires étrangères, sont prêts à faire ce pas, sont prêts à avancer dans la voie d'une possible restitution. De manière significative, c'est également manifestement le cas du côté de la RDA, qui, à l'époque, entretient des relations privilégiées avec plusieurs États africains, notamment les pays non alignés, et qui accueillera en 1985, sur l'île des Musées à Berlin, une très grande exposition organisée, dont le commissaire est Egbo Eyo, une exposition itinérante d'art du Nigeria, exposition itinérante qui passe à Paris, qui passe en Suisse, qui passe à New York, mais qui ira aussi en Yougoslavie et à Saint-Pétersbourg, et donc aussi à Berlin-Est, une exposition intitulée Kunst aus Nigeria, donc l'art du Nigeria, dans le musée de Pergame, exposition qui a une grande visibilité internationale, comme en témoigne cet article en langue anglaise rendant compte de l'exposition. Exposition qui est également l'occasion d'une approche politique intensive des élites politiques de RDA et du ministère de la Culture, notamment par Egbo Eyo, qui met sur le tapis, comme vous le voyez ici dans cet extrait de lettre de 1985, met sur le tapis la question des restitutions. Il est dit ici que le ministère de la Culture et les musées sont en train de réfléchir à la question des restitutions vers le Nigeria, tant demandées depuis les années 70, tant réclamées par Egbo Eyo. Dans ces années 80, l'UNESCO publie un formulaire type pour les demandes de retour ou de restitution que vous voyez ici, dont on trouve la trace dans de nombreuses archives, qui n'a pas été beaucoup utilisé, mais on voit bien comment ici ce formulaire type trilingue semble indiquer que le retour de ces biens culturels partis en masse du continent africain vers l'Europe entre 1880 et les années et la Deuxième Guerre mondiale, pour faire vite, que ces objets pourraient être en partie restitués. Tout semble prêt et on a vraiment le sentiment que dans ces années-là, autour de 1980, dès 1979, ce que en 2019 certains ont appelé le Big Bang du présent, le début de notre époque actuelle, avait en effet lieu et qu'une chance était qu'une ouverture avait été donnée et aurait pu permettre des restitutions. Il me semble que ce qui s'est passé là dans les années 79 peut être lu en parallèle avec le débat sur le climat. Vous savez qu'en 2019, Nathaniel Rich, journaliste du New York Times, a publié, et notamment en français au Seuil, un ouvrage intitulé « Perdre la Terre, une histoire de notre temps », où il a tenté de reconstituer les gestes qui n'avaient pas été faits entre 1979 et nos jours pour sauver la planète. Et sa thèse, c'est qu'en 1979, tout avait été prêt, toutes les décisions auraient pu être prises pour ralentir la crise climatique, mais que des lobbies se sont impliqués avec beaucoup d'énergie pour empêcher que les bonnes décisions soient prises. Et il me semble que dans la question des restitutions, des reconnexions patrimoniales qui auraient pu être mises en route sur le continent africain par le biais de restitution, on observe une dynamique semblable avec des années 79-80 où tout semble être prêt pour que ces restitutions aient lieu et d'importants mouvements de résistance qui finalement vont mener à l'oubli, donc à l'échec de cette dynamique d'une part et à l'oubli même des débats des années 70 qui sont ressortis récemment par le biais de travaux d'archives, mais que sinon on avait oublié. Ce qui me conduit à ouvrir le troisième volet du cours intitulé « Résistance » et à poser la question de ce qui a bien pu se passer pour que les reconnexions patrimoniales qui semblaient engagées ou semblaient possibles dans les années 70, pour qu'elles aient été empêchées. Qui, quel groupe, quelles structures, quels mécanismes ont fait que, finalement, cette dynamique nationale au plus haut de l'État allemand, français, ait été empêchée. Et on trouve de nombreuses traces, de nombreuses pistes qui montrent, en tout cas dans le domaine allemand, que les musées ont été particulièrement hostiles à l'idée de restitution. Je vous montre ici le début d'un article publié en mai 1979, justement, dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, le grand quotidien allemand, à propos d'une conférence dans laquelle il est dit, au début de cet article, « Seit etwa sechs Jahren geht ein Gespenst in europäischen Museen, kurz Restitution genannt. » C'est une allusion à l'image du spectre du communisme de Karl Marx. Il est dit donc en français, « Depuis six ans environ, un spectre hante les musées d'Europe, le spectre de la restitution. » On est en 1979, c'est bien la preuve que depuis six ans au moins, depuis les années 72-73, l'opinion publique sait, en Allemagne, et elle le sait en France aussi, que ce débat sur la restitution est très virulent. L'idée d'un spectre de la restitution qui hante les musées d'Europe est une paraphrase de la célèbre phrase de Karl Marx, selon laquelle un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme. Toutes les puissances de la vieille Europe se sont unies en une sainte alliance pour traquer ce spectre. Et ici, donc, de manière implicite, il est dit que tous les musées d'Europe, ou en tout cas d'Allemagne, mais d'Europe, se sont mises ensemble pour traquer ce spectre de la restitution. Et en effet, si on consulte la presse de ces années, on constate que ce sont les musées, en tout cas du point de vue des journalistes qui les observent, y compris dans le monde britannique. Je vous montre ici un petit article tiré du Times en 1981, que ce sont les musées qui sont à la pointe de l'opposition contre les tentatives les initiatives de restitution menées par les États. Si on plonge un peu plus avant dans les dossiers, dans les archives, on obtient la confirmation, et en tout cas dans le domaine allemand, de cette opposition franche des musées au projet de restitution. Je vous montre ici un document vertraulich, c'est-à-dire top secret, que la commission allemande de l'UNESCO a fait circuler 1978, qui était une sorte de vade-mecum pour les musées, pour des recommandations qui leur permettraient de faire face aux demandes de restitution dans différents domaines, donc avec des conseils concrets sur la manière d'accueillir ou non plutôt ces demandes de restitution. Ce texte est donc top secret. Je vous en montre simplement trois extraits qui sont extrêmement parlants, à mon avis, et qui montrent combien, ici, dans les années 70, on a tenté d'empêcher le départ de ces collections scientifiques des musées publics. Collections, vous le comprenez, et vous le comprenez d'autant plus qu'on a évoqué la chose, qui forment des séries dans ces musées. Et pour les musées, l'idée de briser les séries, de démanteler les séries, et bien sûr, pour des musées qui sont basés sur l'idée de séries et de complétude, serait une catastrophe scientifique. C'est du moins ainsi qu'ils argumentent. Ce serait sans doute aussi une défaite symbolique, mais l'argument explicite est celui d'une défaite scientifique. Alors, je vous lis simplement trois extraits de ce long document, extrêmement explicite, extrêmement intéressant, concernant donc l'attitude à adopter en cas de réclamation des biens culturels venant du tiers-monde et en particulier de l'Afrique. Il est dit ici, le terme « restitution » doit être combattu. Dans le cas contraire, l'impression d'une acquisition légalement malpropre apparaîtrait. Le terme « restitution » ou « retour » doit être défini de manière si large qu'aucune obligation morale n'y soit liée. Un nouveau terme est proposé, transfert. On voit bien ici combien déjà la question du vocabulaire est intéressante, importante. Les musées refusent que l'on parle de restitution puisque le terme de restitution comporte en lui-même une dimension temporelle. Quand on parle de restitution, on parle d'un retour dans l'histoire, de quelque chose qui a une historicité. Et d'après les auteurs de ce papier, le terme de restitution implique une obligation morale. Il y aurait eu une faute qu'il faut corriger, réparer en restituant, en revenant à un état antécédent. Et à la place du terme de restitution, avec cette dimension historique et cette idée de réparation, les auteurs de l'article proposent le terme de transfert. On pourrait aussi évoquer le terme de circulation, qui sont des termes sans dimension historique. La circulation ou le transfert sont des termes horizontaux, mais qui n'ont pas de dimension historique, qui ont une dimension dans l'espace, mais pas dans le temps, tandis que le terme de restitution a une dimension dans le temps. Et on verra dans ces années-là, et jusqu'à aujourd'hui, à vrai dire, qu'il y a une véritable bataille des mots, les uns utilisant ce terme de restitution pour rappeler que l'histoire de ces collections, l'histoire de ces objets n'est pas une histoire neutre, et les autres tentant plutôt d'imposer le terme de circulation pour gommer précisément cette histoire difficile. Deuxième extrait de cette aide adressée au musée allemand dans les années, à la fin des années 1970, la rubrique émotionnalité, emotionalität, donc la question des émotions. On a commencé sur la question de la terminologie et puis au point numéro 3, ce papier arrive à la question des émotions. Il est dit ici, sur la question de la restitution des objets culturels, entre guillemets, puisqu'il utilise ici le terme de restitution qu'il ne veut pas utiliser, ce papier, sur la question de la restitution des objets culturels, il existe une forte pression publique ou morale sur nos musées. Les pays du tiers-monde sont déterminés à récupérer leur patrimoine culturel et à le présenter chez eux. Il s'agit d'un processus émotionnel. C'est pourquoi il faut toujours répondre en revenant à la situation juridique. Là encore, extrêmement intéressant, on voit que on suggère au musée, quand les émotions patrimoniales, qui sont donc des émotions liées à la mémoire, à l'histoire, et on a vu tout à l'heure ce témoignage, on a entendu tout à l'heure ce témoignage du jeune artiste africain qui dit que le départ des masques correspond pour lui à une bibliothèque qui brûle, qui est évidemment une image extrêmement émotionnelle, que toutes ces émotions-là doivent être, nous disent les musées ici, doivent être écrasées ou en tout cas gommées ou neutralisées avec des réponses de type juridique. Donc on aurait d'un côté les émotions de ceux qui réclament ou de ceux qui soulignent qui soutiennent les processus de réclamation d'un côté et les autres qui seraient du côté des institutions propriétaires qui préféreraient toujours répondre à ces demandes de manière juridique, avec la froideur, si on veut, des textes juridiques et en tout cas en gommant l'émotion, émotion qui paraît être un danger pour ces musées. Donc émotion absolument à éviter. Terminologie, émotionnalité, donc le discours public sur ces questions. Et puis, dernier élément que je voudrais retenir de ce texte qui, dans son ensemble, qui comporte plusieurs pages et qui mérite d'être lu dans son ensemble, mais ici, me paraît intéressant le passage consacré aux inventaires, aux listes d'objets, Objektverzeichnisse, inventaire d'objets. Ici, il est suggéré au musée de ne pas les publier et même de ne pas les réaliser, à vrai dire, pour la raison suivante. Inventaire, tant nos musées ethnographiques que les administrations culturelles mettent en garde contre l'établissement de telles listes, elles risqueraient de susciter des appétits plus grands encore. Alors là, ici, extrêmement intéressant, l'idée qu'il ne faut pas être transparent sur les collections, puisque la transparence risquerait d'augmenter la connaissance des collections conservées dans les musées allemands, et que cette connaissance aurait pour conséquence que certains réclament les pièces qui le plus souvent ne sont pas visibles, puisque, comme on l'a vu dans différents cours, les collections africaines notamment ne sont généralement que présentées dans une toute petite mesure, les autres pièces, le gros des collections étant en général dans les réserves. Donc surtout ne pas dire ce qu'on a pour ne pas éveiller ici des Begehrlichkeiten, c'est le terme allemand utilisé, c'est-à-dire des appétits ou des désirs auxquels on aurait du mal à résister. Alors, la question des résistances, ou qui a empêché que ce processus de restitution, de reconnexion patrimoniale, de recouvrement de la mémoire, tant réclamé par les élites intellectuelles et culturelles africaines, se mette en place, sans doute, en tout cas dans certains pays d'Europe, et c'est le cas évident pour l'Allemagne, les musées d'une part. Et d'autre part, si l'on en croit cet article notamment et d'autres sources, d'autres pistes, mais en tout cas c'est écrit noir sur blanc dans cet article du Africa Report du début de l'année 1974, une revue américaine qui en 1974 pose sur sa page de titre la question « L'art africain retournera-t-il jamais chez lui ?» On y voit sur cette couverture une petite statuette africaine de la taille d'un enfant qui vient d'entrer dans le couloir centre, dans l'allée centrale d'un avion tout vide, un avion d'Air Afrique, et on imagine cette petite figure en train donc qui est montée dans l'avion pour rentrer chez elle, sauf que le point d'interrogation est posé directement au-dessus de sa tête, pratiquement comme une épée de Damoclès. Et ce journal américain, publié à New York en 1974, consacre un long article, en fait, au marché de l'art africain, au trafic d'œuvres africaines dans les années 70. Donc au milieu des années 70, ces œuvres africaines, ces patrimoines africains sont protégés ou devraient l'être depuis 1970 par une convention de l'UNESCO qui interdit ou qui voudrait empêcher l'exportation illégale de certains patrimoines. Mais à cette époque, en 1970, cette convention n'a pas été ratifiée par les pays européens, par les pays possesseurs ou par presque aucun. Et cet article très long de Suzanne Blumenthal, bonne connaisseuse de l'Afrique subsaharienne, indique que l'un des principaux obstacles à la restitution des patrimoines est bien ce marché de l'art tellement avide. Et vous voyez dans le petit texte ici à gauche qui résume l'article, la dernière question à la fin de ce petit texte, qu'est-ce qui garde tout cet art en mouvement, point d'interrogation ? Vous l'avez deviné, c'est l'argent. Donc, pour faire vite, et trop vite bien sûr, et il faudrait nuancer davantage le propos, mais les principaux groupes qui semblent faire obstacle dans les années 70 et les années 80 à cette demande légitime de restitution, de recouvrement de mémoire, d'histoire, de matériel patrimonial, eh bien, le monde des musées et le monde du marché. Et pour terminer ce cours, ce neuvième cours, et plus généralement l'ensemble des cours consacrés à la présence patrimoniale de l'Afrique dans les musées d'Europe, je voudrais donner la parole à Amadou Makhtar Mbo et le remettre en perspective avec d'autres textes qui ont pu être consacrés dans l'histoire à la question des translocations patrimoniales, des pertes de patrimoine des implications historiques, mémorielles liées à ces pertes. Je voudrais donc mettre Amadou Makhtar Mbo en lien avec le texte si important de Polybios qui, en l'an 200 avant Jésus-Christ, ayant été lui-même otage grec emporté à Rome, a écrit un texte adressé aux Romains sur la manière de ne pas répéter des erreurs humiliantes face aux colonies romaines. Et Polybios écrit un texte, notamment un court passage d'un texte où il explique que la présentation des patrimoines spoliés à la Grèce, cette présentation à Rome, représente une double humiliation puisque la Grèce les a perdus et qu'en plus on l'oblige à admirer son patrimoine à Rome. Je voudrais mettre Amadou Makhtar Mbo en lien avec les textes de Cicéron, que j'ai déjà évoqués dans les leçons des années précédentes, qui a décrit peut-être de la manière la plus précise les effets traumatiques que suscitent des pertes d'objets sacrés notamment, et il s'intéresse au cas de la Sicile, et le mettre en lien avec Goethe, qui autour de 1800 a jeté un regard critique sur les pratiques françaises d'appropriation patrimoniale en Italie. Amadou Makhtar Mbo, donc, qui, au XXe siècle, a écrit, du point de vue des dépossédés, du point de vue des Africains, l'un des textes peut-être les plus intéressants, des plus touchants aussi, donc en jouant, bien sûr, sur la corde aussi de l'émotion, mais de la raison également, a prononcé, c'était un discours, puis publié un texte intitulé « Pour le retour à ceux qui l'ont créé d'un patrimoine culturel irremplaçable » où il revendique le droit des pays du tiers-monde, et il ne les appelle pas lui-même les pays du tiers-monde, à récupérer une partie de leur patrimoine. C'est un texte de 3 pages environ, dont je vous recommande la lecture intégrale, qu'on peut trouver sur le site de l'UNESCO, y compris en audio. On peut entendre Amadou Makhtar Mbo. Je retiens 3 phrases simplement, ou 3 passages, ou 4 passages de ce beau texte que je voudrais lire et qui me serviront de conclusion à ce cours sur la présence africaine, les présences africaines dans les musées d'Europe. Amadou Makhtar Mbo dit en 1978 donc, les peuples victimes de ce pillage parfois séculaire n'ont pas seulement été dépouillés de chefs-d'œuvre irremplaçables, ils ont été dépossédés d'une mémoire qui les aurait sans doute aidés à mieux se connaître eux-mêmes, certainement à se faire mieux comprendre des autres. Ces biens de culture qui sont partis de leur être, les hommes et les femmes de ces pays ont droit à les recouvrer. Ils savent, certes, que la destination de l'art est universelle. Ils sont conscients que cet art qui dit leur histoire, leur vérité, ne la dit pas qu'à eux, ni pour eux seulement. Ils se réjouissent que d'autres hommes et d'autres femmes, ailleurs, puissent étudier et admirer le travail de leurs ancêtres. Et ils voient bien que certaines œuvres partagent depuis trop longtemps et trop intimement l'histoire de leur terre d'emprunt pour en être séparées. Et il poursuit « J'appelle celles de ces institutions qui détiennent plusieurs objets ou documents semblables à se défaire au moins d'un objet et à le renvoyer dans son pays d'origine pour que de jeunes générations ne grandissent pas sans avoir jamais eu la possibilité de voir de près une œuvre d'art ou une création artisanale de qualité fabriquée par leurs ancêtres. » C'est une allusion ici au droit au patrimoine que l'Europe s'est donné à elle-même, le droit d'accès au patrimoine, en 2005 lors de la conférence de Faro, et que Amadou Makhtar Mbo ici revendique aussi et naturellement pour les générations, la jeunesse des pays dont les patrimoines ne sont plus dans les pays concernés. Et il finit en ces termes, restituer au pays qui l'a produit telle œuvre d'art ou tel document, c'est permettre à un peuple de recouvrer une partie de sa mémoire et de son identité. C'est faire la preuve que, dans le respect mutuel entre nations, se poursuit toujours le long dialogue des civilisations qui définit l'histoire du monde. Reconnexion patrimoniale, donc, le désir de se remettre en contact avec des objets qui ont quitté le continent africain au sud du Sahara depuis le 19e siècle, dans des conditions souvent de violence symbolique ou réelle. C'est bien le désir exprimé ici par Amadou Makhtar Mbo et qu'on comprend peut-être davantage lorsqu'on prend conscience, comme j'ai tenté de le faire avec vous, de la manière dont ces patrimoines et la quantité dans laquelle ces patrimoines sont arrivés dans les musées européens. Voici notre cours achevé et je vous remercie de votre assiduité, de votre fidélité et de votre patience. À l'année prochaine.